puis merci parce que surtout, merci au Seigneur parce que surtout ce matin, eh bien ensemble, nous avons manifesté notre joie, le bonheur de lui appartenir. Alors, je vous pose une question. C'est quoi pour vous profiter de la vie? Qu'est-ce qui fait votre bonheur? Est-ce que vous pensez que les chrétiens persécutés en Corée du Nord, en Afghanistan, est-ce que vous croyez qu'ils profitent de la vie? Alors, nous allons essayer de répondre à ces interrogations. Nous allons voir deux faces. La réponse de celui qui n'a aucune révélation divine, et puis la réponse de celui qui a découvert, à travers la personne du Seigneur Jésus, cette joie, ce bonheur. Le psalmiste dit au psaume 34, « Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ?» Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Je veux prolonger ma vie. Et puis, c'est formidable parce que ce n'est pas moi qui la prolongerai, c'est lui qui l'a prolongée. Elle la prolonge jusque dans l'éternité. Et jusque dans l'éternité, je pourrai jouir du bonheur. Est-ce que c'est votre cas ici, présent aujourd'hui? Alors, avant de continuer, je vais quand même lire quelques passages. Le premier dans le livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 2, et nous lirons juste le verset 17. Ecclésiaste 2, verset 17. « Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. » Alors, gardez la page. Allons maintenant dans Jean chapitre 10. Et le verset 10, Jean 10, verset 10, je vous lis, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Revenons à Ecclésiaste, excusez-moi, mais je préfère les lire dans cet ordre-là. Ecclésiaste 2, toujours, mais le verset 24 maintenant. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Alors maintenant, de nouveau, je vous fais feuilleter dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 6, verset 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Et puis, un dernier verset dans l'Épître aux Romains. Romains chapitre 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui. Alors, vous le savez, mais souvenez-vous que les livres historiques et que les prophètes et les psaumes nous entretiennent plus spécifiquement d'Israël, c'est vrai. Mais à un moment donné, les choses ont changé. Au jour de la résurrection du Seigneur Jésus, souvenez-vous, sur le chemin d'Emmaüs, que va-t-il leur dire? Il va leur dire, ne cherchez plus, vous, peuple d'Israël, ne cherchez plus les choses telles que vous les considériez avant. Mais en considérant Moïse et les prophètes, considérez les choses qui me concernent. Les choses vont changer. Tout va s'éclairer sous un autre jour. L'Ancien Testament va s'éclairer à la lumière du Nouveau Testament, à la lumière de la parole de Jésus-Christ. Le sacrifice d'Abel va nous parler de la croix. Abraham et Isaac font penser au Père et au Fils, accomplissant l'œuvre de la rédemption. Joseph devient le tableau émouvant de l'envoyé du Père, qui, rejeté de ses frères, descendra jusque dans la mort, pour recevoir à travers la résurrection et l'ascension à la droite de Dieu un nom au-dessus de tout nom. Voilà le nouvel éclairage que va offrir cette nouvelle alliance, que va nous offrir la personne même du Seigneur. Nous allons voir cela. Et l'Ancien Testament, ainsi, converge vers la venue de celui qui sera au milieu des hommes la parole faite chair. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous, manifestant toutes les vertus de son Père. Et ainsi, pour nous chrétiens, Dieu n'est plus seulement le Dieu suprême, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, l'éternel, mais il est avant tout et au-dessus de tout le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment le considérez-vous ce matin? C'est vrai, il est le Créateur, on l'a chanté. C'est vrai, il est le Tout-Puissant, nous l'avons chanté. Mais est-il votre Père et Jésus-Christ, votre Seigneur et votre Sauveur? Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus est sorti du tombeau, il rencontre Marie. Et que lui dit-il? Il lui dit, va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Est-ce une réalité pour nous ce matin? Alors, nous allons considérer ce que l'Ecclésiaste, nous en avons lu quelques versets, ce que l'Ecclésiaste dit concernant ce qui fait son bonheur. Et en contrepartie, en contraste, nous allons voir ce que le Nouveau Testament nous révèle concernant ce qui est, ce qui doit être notre bonheur, maintenant. Mais qui est l'Ecclésiaste? L'Ecclésiaste, je dirais que c'est l'expérience d'un homme marqué de trois manières. Or, je crois que c'est un homme qui connaît, en tout cas en partie, le bien et le mal, et possède une certaine sagesse. Et puis, il regarde autour de lui d'un regard inquisiteur et intelligent, et il voit tout ce qui se fait sous le soleil. Et puis il va raisonner sur ces choses. Et il va constater que le péché est en lui-même, que le péché est autour de lui, mais que malheureusement, il n'a pas de remède, lui. Et puis l'Ecclésiaste, c'est aussi quelqu'un qui a une certaine connaissance de Dieu, mais sans avoir de véritable relation, de véritable intimité avec ce Dieu qui reste lointain pour lui. Et puis, c'est aussi, comme nous dans ces pays occidentaux, quelqu'un qui est aisé. Matériellement, il ne lui manque rien. Il a tout ce qu'il lui faut. Alors, est-ce que dans ces conditions, l'Ecclésiaste va-t-il trouver le bonheur? Quel sera le résultat de son interrogation, de son expérience? Eh bien, du début jusqu'à la fin de son livre, il n'y a aucune vraie satisfaction, aucun bonheur durable, aucune connaissance de l'avenir, aucune espérance véritable. Il y a trois termes qui reviennent constamment dans le livre de l'Ecclésiaste. Sous le soleil, expression qui revient. Il considère les choses, mais il les considère avec ses sens. le toucher, ses yeux, tout ce qui constitue les choses terrestres. Ça, il les voit, il sait les considérer et il sait s'interroger sur ces choses. Et puis, il va répéter à plusieurs reprises, vanité, poursuite du vent, tout est vanité. Il va faire le constat que tout ce pourquoi l'homme se dépense sur la terre n'est que du vent, du vide, qui laisse son cœur insatisfait. Et puis, la troisième chose qui va marquer ce livre, eh bien, c'est une absence. L'Éternel, Dieu, n'y est pas connu. Il ne connaît pas véritablement cette intimité avec son Dieu. Il sait qu'il existe, mais ça se limite quasiment à cela. Alors, nous avons dans ce livre de l'Ecclésiaste les réflexions finalement de l'homme naturel, de chacun d'entre nous sur cette terre. Des raisonnements d'homme incrédule qui ne possède pas vraiment de révélation et on dirait aujourd'hui qui refuse peut-être même de prendre connaissance de cette révélation. De tels hommes existent aujourd'hui par milliers, vous savez. Et dans ce qu'on appelle même la chrétienté, ils ont, oui, une certaine connaissance du bien et du mal. Ils ont une certaine mesure d'intelligence, de discernement. Ils saisissent qu'il y a un Dieu suprême, mais ils se privent de la révélation de Dieu que Dieu a donnée par Jésus-Christ. Bon, c'est vrai que techniquement, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis 2-3 000 ans. Mais du point de vue moral, nous pourrions reprendre les paroles de l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les conséquences du péché subsistent, n'est-ce pas? Que disait déjà l'Ecclésiaste au chapitre 1er au verset 15? Il dit « Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut compter. » Ça veut dire quoi ça? Eh bien, tout simplement, il fait le constat des conséquences du péché dans nos vies. Ce qui est courbé, l'homme ne peut le redresser par lui-même. Il constate sa faiblesse, sa faillite devant le péché qui est là. Et beaucoup s'interrogent sur la vie, sur l'énigme de la souffrance. Pourquoi y a-t-il autant de souffrance? Pourquoi Dieu permet-il ces choses? Sur la vanité des efforts humains pour empêcher les guerres, les calamités, les maladies. Sur l'impuissance de l'homme devant la mort. Et il ne trouve pas d'autre conclusion que ce désespoir et ce vide si tragiquement décrit par l'Ecclésiaste. Quel désespoir! Mais voilà, à la lumière du Nouveau Testament, nous pouvons apporter, dégager des réponses à toutes ces interrogations, à tout ce que l'Ecclésiaste va mettre en évidence. Il va s'interroger sur beaucoup de choses, sur le travail, sur les richesses, sur la sagesse, sur la crainte de Dieu, la puissance, et puis sur ce qui nous concerne aujourd'hui, plus particulièrement, sur la jouissance de la vie. Comment profiter de la vie? Alors, maintenant, je voudrais juste confronter 4 passages, l'un dans l'Ecclésiaste et l'autre dans le Nouveau Testament. Et nous allons voir quelle différence il y a et quel est ce plus que le Seigneur Jésus nous apporte. En l'Ecclésiaste chapitre 2, verset 17, je vous lis, il dit ceci. « J'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. » C'est peut-être votre constat. C'était le constat de cet homme qui raisonnait en voyant tout ce qui se passait, en voyant toutes les fraudes, en voyant tous les malheurs, en voyant toutes les guerres. Voilà, il en était arrivé à haïr la vie. Il était déprimé, il était découragé. découragé sur son état, découragé sur l'état des hommes, sur l'incapacité de l'homme à faire le bien, selon Dieu. Mais écoutons ce que nous dit le Seigneur Jésus en Jean chapitre 10, verset 10. « Moi, je suis venu, dit-il, afin que les brebis, et nous sommes chacun pour sa part une brebis, n'est-ce pas ? Afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Nous allons voir de quelle abondance il s'agit un peu plus loin. L'Ecclésiaste dira au chapitre 2 et au verset 18 « J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Ben, » c'est une réalité de tous les temps, ça. J'ai travaillé comme un forçat toute ma vie. Et puis là, j'ai accumulé des biens. J'ai engrangé, n'est-ce pas ? Et puis, à quoi cela va-t-il te servir ? Dit le Seigneur. À quoi cela va-t-il te servir ? Tous tes biens, tu les laisseras au suivant. À tes héritiers qui vont peut-être dilapider tous tes biens en un instant. Vanité, tout est vanité. Mais que nous dit l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament ? En 1 Corinthiens 15, verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. » Il dit « J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Alors de quel travail s'agit-il ? Est-ce que c'est d'aller pointer tous les jours ? C'est vrai que c'est une nécessité, bien sûr. Pour gagner sa vie, pour vivre sur cette terre, pour jouir des biens matériels dont l'Ecclésiaste nous parle. Mais non, ce travail dont Paul peut se réjouir et dont il dira « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile », c'est la proclamation de cette bonne nouvelle. C'était là son travail. Alors il ne s'agit pas pour chacun d'entre nous d'être des apôtres Paul, n'est-ce pas ? Et de commencer à prêcher, si vous y êtes appelés, merci Seigneur. Mais par votre vie de tous les jours, par notre travail de tous les jours, non pas seulement pour le Seigneur, mais avec le Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous en réjouir de ce travail ? Loin de nous, cette pensée de le haïr, n'est-ce pas ? Comme le disait l'Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 18. « Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, dit-il. » Et essayons de comprendre. Avec beaucoup de sagesse, la sagesse selon le monde, n'est-ce pas ? On a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Prenez ça, vous. Ouais. Avec beaucoup de sagesse. Que faisait-il l'Ecclésiaste ? Il regardait autour de lui et il raisonnait. Il avait cette intelligence, comme nous l'avons tous d'ailleurs. Il raisonnait sur les choses d'une manière humaine. Et il constatait les malheurs. Il constatait qu'il y avait des guerres. Il constatait qu'il y avait des massacres. Nous ouvrons notre poste de télévision et nous voyons ces choses aussi. Et nous avons cette sagesse humaine pour raisonner sur ces choses. Et que provoquent-elles dans nos cœurs ? Elles provoquent beaucoup de chagrin, n'est-ce pas ? Le constat de l'œuvre du péché dans le cœur de l'homme provoque chez l'humain, chez l'homme qui raisonne sur ces choses, de la peine et de la tristesse. Ce n'est pas votre cas. Et puis, lorsque l'homme augmente sa science, il augmente sa douleur. Ceux qui raisonnent et qui s'interrogent sur ce qui se passe, ce qui se fait dans le monde, selon l'intelligence et la science des hommes, finissent par augmenter leur douleur. Pourquoi ? Qu'a-t-on fait Qu'a-t-on fait de l'invention d'Einstein? On a fait la bombe atomique. La science de l'homme, qui lui a été révélée, qui, avec son intelligence, de quelle manière l'a-t-il utilisée? En provoquant beaucoup de douleur. Et de nouveau, l'Ecclésiaste constate que le péché fait son œuvre dans le cœur des hommes, dans votre cœur, dans nos cœurs. Mais il y a une réponse, il y a un contraste. Le Nouveau Testament nous dit ceci, c'est Jean, l'apôtre Jean, premier épître de Jean, chapitre 1, verset 1, nous dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. De qui parle-t-il? De quoi parle-t-il? Ce qui était dès le commencement, Dieu. Ce que nous avons entendu, Dieu qui se révèle, Dieu qui se manifeste, Dieu qui se fait voir de nos yeux en tant qu'humain. Ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, dit Jean. Concernant la parole de vie, qui est cette parole de vie? Qui est celui qui s'est fait chair, qui est la parole, et qui est venu parmi nous, qui a établi sa tente, nous dit le texte, parmi les hommes? Le Seigneur Jésus, Dieu fait homme. Eh bien, Jean dit nous l'avons considéré. Et il dit, il constate ceci, la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue, cette vie. Et nous lui rendons, témoignage. Il a constaté tous les bienfaits, tout le bénéfice de la personne du Seigneur Jésus parmi eux et en eux. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifesté. Voilà ce qu'il désire. J'ai saisi l'importance de la personne de celui qui annonce la vie, et maintenant, je vous l'annonce. Voilà son message. Ce n'est pas un message triste, ça. C'est un message heureux. Ce n'est pas un message qui nous pousse à haïr les choses. C'est un message qui nous pousse à l'adoration de celui par qui nous avons tout pleinement, nous dit les Écritures. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses dans la parole de Dieu. Pourquoi? Afin que notre joie soit parfaite. Il est heureux, Jean. Ils sont heureux, tous ses disciples qui ont vécu avec le Seigneur Jésus. Ils sont heureux de cette joie qu'ils ont maintenant un Sauveur et un Seigneur qui est vivant, qui est ressuscité et qui vient bientôt pour les introduire dans sa joie, dans sa paix et dans son bonheur. Mais les révélations que nous fait le Nouveau Testament, à travers ces révélations, nous constatons ce qu'est réellement jouir de la vie. Mais il est bon, une fois de plus, de les mettre en comparaison avec l'Ecclésiaste, parce que nous vivons dans un monde où nous découvrons sans cesse ce contraste entre celui qui n'a aucune révélation, entre celui qui est perdu dans ses péchés, qui est mort, et puis avec celui qui est vivant. Avec celui qui a cette révélation, avec celui à qui Dieu s'est manifesté, celui dont le cœur a été touché. Alors que nous dit l'Ecclésiaste? Il se pose cette question. Celui qui agit, quel profit a-t-il de ce à quoi il travaille? Et promenant les regards sur ce qui se fait sous le soleil, eh bien, il va arriver à cette conclusion-ci. Il n'y a de bonheur, Ecclésiaste 2, 24, il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger, à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Première constatation, nous allons voir qu'elle va se répéter, n'est-ce pas? Et puis, l'Ecclésiaste sait que Dieu a fait de belles choses, de grandes choses, en son temps, et elles sont passagères pour lui. Parce que lui, il ne goûte que le moment présent des choses. Et quelle est sa conclusion? Mais il va dire, j'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir, à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Est-ce faux? Non. Mais c'est tellement terre à terre, n'est-ce pas? Et puis, après avoir considéré les souffrances, les oppressions autour de lui, il continue au chapitre 5 et au verset 18. « Voici ce que j'ai vu, dit-il. C'est pour l'homme une chose belle, une chose bonne, de manger et de boire, de jouir du bien-être au milieu de son travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre de jours de vie que Dieu lui a donné. Et c'est là sa part. » Tout homme est obligé de concevoir ces choses et de dire, ben oui, c'est vrai, c'est bien. N'aimez pas aller au restaurant une fois de temps en temps. Si, bien sûr. Vous n'aimez pas profiter de vos enfants, de l'entourage de vos enfants, de vos petits-enfants. Moi, je suis tout heureux quand je vais voir mes petits-enfants. Et puis, mon épouse rentre et la première chose que j'entends, parce qu'il ne m'a pas encore vu, « Eh oui, les papis !» Mais ça me réjouit, n'est-ce pas? Mais c'est terre à terre. Et ça réjouit mon cœur, bien sûr. Mais toutes ces choses, l'Ecclésiaste pouvait le constater et en profiter aussi. Chaque homme sur cette terre peut dire la même chose. Et puis l'Ecclésiaste va continuer, il donne ensuite des conseils, indiquant les choses qui valent mieux que d'autres, au chapitre 7. Et il rappelle même que Dieu jugera chacun. Et puis sa conclusion, de nouveau, la même chose. J'ai donc loué la joie parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail pendant les jours de la vie que Dieu lui donne sous le soleil. Cette jouissance matérielle, passagère, égoïste, est-elle vraiment la vie? Est-ce là la vie? C'est l'interrogation de l'Ecclésiaste, ça. C'est aussi l'interrogation de chaque homme sur cette terre, avec cette faculté naturelle, sans véritable révélation, qui résonne tout simplement sur les choses de la vie. Et cette conclusion n'est-elle pas celle de quantité d'hommes autour de nous? Souhaite-t-il autre chose que de bien manger, de bien boire, de se réjouir, de se distraire? Alors, faut-il s'étonner de tant de tristesse profonde, de tant de vide et d'insatisfaction? Je perds mes papiers. Il y a un petit ventilateur là, mais c'est pas grave. Je l'ai récupéré. Alors, écoutez justement c'est ce feuillet de calendrier dont je voudrais vous lire un extrait. Il s'intitule « Manger et s'amuser ». J'ouvre ma boîte aux lettres. Encore une publicité. Elle vient d'une maison qui vend par correspondance de la nourriture fine en prévision des réveillons de Noël et de Nouvel An. On y arrive. Hein. Le slogan publicitaire me serre le cœur. Bien manger, s'amuser, il n'y a que ça de vrai, pas vrai. Le bonheur tiendrait donc dans une assiette bien garnie et dans quelques divertissements éphémères qui ne seront plus qu'un souvenir au lendemain du 1er janvier. À la question du slogan, je réponds non. Le bonheur n'est pas dans la jouissance de biens matériels, même si nous en sommes abondamment pourvus. Aujourd'hui, la course aux bons repas et aux divertissements rappelle ce que réclamait le peuple de l'Empire romain, du pain et des jeux. Mais l'Empire romain s'est écroulé, et avant lui d'autres civilisations matérialistes ont disparu, comme celle d'avant le déluge ou celle de Sodome et Gomorrhe. Quel constat ! C'est triste que d'en rester là. Et pourtant, c'est une réalité, même pour les adolescents de notre temps. Il y a pour le moment en Suisse une exposition qui est la suivante. On a demandé à des adolescents de s'écrire une lettre pour dans 10 ans. Alors c'est curieux. Voilà, vous allez écrire une lettre avec le constat de votre existence au moment présent. Que pensez-vous de la vie ? Et puis dans 10 ans, eh bien, vous relirez cette lettre. Ils s'écrivent à eux-mêmes. Et voici le témoignage d'une gamine de 16 ans. Une ado qui dit, elle s'écrit donc, elle dit, elle se parle à elle-même, elle dit « chère Estelle ». Elle s'appelle Estelle. « J'aurais tant aimé remonter le temps, me lire enfant. Voilà pourquoi aujourd'hui je décide de t'écrire afin que dans 10 ans tu aies un souvenir à découvrir. Le jour où tu ouvriras cette lettre, le 14 février 2027, tu auras 26 ans. Ces premières semaines de gymnaste ont été difficiles pour toi, car tu n'arrivais pas à trouver la place parmi tous ces gens. La vie de gymnastienne ne te plaisait guère. Rentrer tard le soir, manger vite fait quelque chose, travailler, puis prise de fatigue, t'endormir à des heures tardives. Le lendemain, tu n'entends pas le réveil et tu te lèves en trombe. Tu cours à peine habillé afin de ne pas louper ton bus et revis la même journée encore et encore. Tu te sens en dehors de la réalité et tu n'arrives pas à contrôler le temps. C'est lui qui te contrôle. Ta vie est monotone, toujours sur le même ton, uniforme. Elle a le même rythme, sans aucun imprévu. Une sorte d'ennui perpétuel qui contraste avec des vies si chargées. Une routine remplie d'actions qui deviennent des habitudes sans réflexion mécanique, comme l'absence. J'accuse l'humain d'être inhumain, de vouloir plus en moins de temps. La nervosité s'installe, puis la dépression. Quand une partie de la terre dort profondément, l'autre se démène, un cercle infernal qui s'accélère. Le soir, quand tu rentres, tu te sens seul, comme dépourvu d'âme. Tes pensées se mélangent, tu penses à une infinité de choses. Tu mets tes écouteurs et tu essaies de combler le vide avec ta chanson préférée, mais ça ne t'aide pas. Tu as l'impression que quelque chose te manque, comme si on te l'avait arraché. Ta joie a disparu. Tu dissimules ce manque, mais la nuit, quand les gens dorment, tu réfléchis. Alors, tu écoutes la chanson encore une fois. Je crois que l'Ecclésiaste aurait pu écrire de telles choses. L'Ecclésiaste des temps modernes, il aurait pu faire ce constat. Quel triste constat. Mais heureusement, il y a des réponses. Et j'en viens à ce qui est essentiel. Ce que le Nouveau Testament va nous révéler. Tout d'abord, d'un point de vue terrestre, parce que le Nouveau Testament nous en parle de ces choses. Comment devons-nous considérer les choses terre à terre, finalement ? Ça a une importance. Dieu ne les néglige pas. Alors, que va-t-il dire en 1 Pierre chapitre... On peut lire ensemble. 1 Pierre chapitre 3, verset 10 à 11. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, oh, c'est votre cas, oui, hein? Que va-t-il faire? Que doit-il faire? Eh bien, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. 3 choses. Et puis, bon, l'apôtre Pierre ne fait en fait que reprendre ce que le psalmiste disait déjà au psaume 34. Psaume 34, verset 14. Nous avons lu tout à l'heure le 13, mais au verset 14, il nous est dit, Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Déjà, le psalmiste disait ces choses. Et l'apôtre Paul, en Colossiens 4, 5 et 6, dira la même chose. Première chose, garde ta langue du mal et des lèvres, et tes lèvres de fraude, de proférer la fraude. Que de chagrin, que de médisance et de calomnie n'ont-elles pas produit? Que de conséquences douloureuses, le mensonge et la fraude n'ont-ils pas amené, n'est-ce pas? Alors, si tu veux vivre des jours heureux, eh bien, préserve-toi de ces choses. Garde ta langue. Et Jacques nous parlera de ce petit organe, mais qui fait tant de mal dans son épître. Et puis, deuxième élément, se détourner du mal et faire le bien. Mais en tant que chrétien, je m'adresse à vous, chrétiens. Nous avons cette faculté, ce discernement maintenant, par l'esprit que Dieu nous a donné, de faire la différence entre le bien et le mal, non plus selon nos propres pensées, mais selon la pensée de Dieu. Nous avons cette capacité maintenant. Et nous avons à chaque instant à faire des choix. Et donc veillons, nous dit l'apôtre Pierre, à nous détourner du mal et à faire le bien. Et nous serons heureux. Quelle différence avec l'Ecclésiaste, qui ne parle que de boire et de manger et de s'amuser. Rechercher la paix et la poursuivre. Bienheureux ceux qui procurent la paix, devait nous dire le Seigneur. En Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et Romains 12, 18 nous dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Pour nous chrétiens, ça doit être une priorité. Une priorité dans nos familles. Une priorité dans l'assemblée, dans les églises. Une priorité dans le travail. Être en paix avec les hommes. Et si nous appliquons sur cette terre ces trois choses, eh bien, nous connaîtrons cette satisfaction, ce bonheur. 1 Timothée 6,17 nous dit, recommande aux riches, nous l'avons en commençant, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. L'horloge, elle ne va plus. Ah oui, il y en a une autre là, excusez-moi. Jusque quelle heure? J'ai encore combien de temps? Ok. J'étais troublé là à l'instant parce que ça fait 2 ou 3 fois que je la regarde et elle est toujours sur la même heure. Je me dis, oh ça va, je suis cool ici. Revenons à ce verset. Donc, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Ces toutes choses, ce sont des choses terrestres. Hein. C'est de cela qu'il s'agit. Nous n'avons pas à recevoir sans reconnaissance à Dieu toutes ces choses. Il nous faut manifester de la reconnaissance. Cette joie au sein de la famille, dans nos foyers, de la famille. Les joies que l'on trouve dans la nature, par exemple. Dans l'observation de ses beautés. La joie de connaître et d'apprendre. La joie de la santé, des forces que Dieu nous donne. Et nous le chantons. Compte les bienfaits de Dieu, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Mais pour jouir de ces bienfaits, il faut mettre 1 Timothée 6,17 en relation avec Romains 8, 32. C'est important, ça. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul. Il nous parle du Seigneur Jésus. Il nous dit, « Lui, qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ?» Vous voyez la différence? Ce sont les choses avec lui. Les toutes choses de Romains 8 vont bien plus loin que les toutes choses de 1 Timothée 6, n'est-ce pas ? Mais le procédé est le même. Dieu fait don librement de toute chose. Comment ? Avec lui. Avec le Seigneur Jésus. Voilà ce qui fait notre secret à nous, chrétiens, croyants. Pour jouir avec reconnaissance de tout ce qu'il reçoit de la main de Dieu, parce qu'il en jouit avec le Seigneur Jésus. Est-ce que vous jouissez de toutes ces choses matérielles avec le Seigneur Jésus? Alors ça implique quoi ça? Eh bien, l'apôtre Paul va nous dire aux Philippiens ses critères de ces toutes choses. Qu'est-ce qui caractérise ces toutes choses? C'est quoi? Philippiens 4, 8, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Waouh! Ah oui, mais c'est à la hauteur de Dieu, vous savez. Dieu ne vise pas moins que sa perfection, que son idéal. Il ne veut pas moins pour nous que cela. Alors, du même coup, cela exclut toutes les joies impures de ce monde, toutes ces corruptions par le péché, c'est-à-dire toutes ces choses auxquelles nous ne pourrions avoir part avec lui. Alors, réfléchissons un peu. Lorsque je prends un repas bien arrosé et que je me retrouve dans un état pitoyable, est-ce que je peux dire que j'ai fait toute chose avec lui? Lorsque je me retrouve dans une discothèque en train de me défoncer et en prenant un joint, est-ce que je fais toute chose avec lui? Là où je suis, est-ce que le Seigneur est là avec moi? Est-ce que c'est selon sa volonté? Est-ce qu'il peut me suivre dans cette voie-là? Non, non. Alors c'est vrai que sur le plan matériel, le Nouveau Testament ne nous demande pas de rejeter toutes les bénédictions terrestres que le Seigneur veut nous accorder. Mais il nous invite à en jouir comme venant de la main de Dieu et avec Jésus-Christ. Mais aussi en nous souvenant que nous prenons ces choses avec joie en passant. En passant. Parce que la vraie part de notre cœur, elle est ailleurs. Là, j'étais long, je n'ai parlé quasiment que des choses très terre à terre. Mais le Seigneur veut plus pour il veut une joie autre pour nous, une joie qui n'est pas caractérisée par les choses qui se voient, mais par celles qui ne se voient pas. Une joie spirituelle. L'apôtre Paul dit : réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est plus avec, c'est dans. Vous voyez la différence ? Dans ma marche de tous les jours, le Seigneur est à côté de moi. Et j'agis avec l'aide de son esprit, si je suis sauvé, chrétien, il est là à côté. Et puis, il approuve ou il approuve pas. Il est avec moi. Mais là, nous allons un pas plus loin. Il est en moi. Il est toujours dans le Seigneur. Le chrétien qui marche avec le Seigneur est un peu comme cette image du cep et des sarments. La sève qui provient du cep va couler dans les sarments et les deux sont étroitement unis. Et cette sève qui coule, qui est là par la puissance du Saint-Esprit, qui est une image du Saint-Esprit, va donner du fruit, plus de fruit et encore du fruit. Est-ce que nous réalisons tout le privilège en tant que sauvé, racheté, d'être dans le Seigneur? C'est un sujet de joie, et de reconnaissance. Là. Et puis nous le faisons sur base non de ce que nous voyons, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous allons au-delà d'une vision humaine, mais nous voyons comment? Par la foi. Nous voyons par la foi. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dira, en Romains 15, 13, « Que le Dieu de l'espérance vous réjouisse de toute joie et de toute paix dans la foi. » Nous nous réjouissons parce que nous croyons en ce qu'il dit. Vous savez, lorsque on est sauvé, lorsqu'on possède cette foi, et je peux le dire, parce que Dieu s'est révélé un jour à mon cœur, et parce que un jour que j'avais 15 ans, il a mis le doigt sur ce qui n'allait pas dans ma vie. Il m'a révélé mon péché. Il m'a dit, hey, mon ami, tu as été élevé dans une famille chrétienne. Ça ne fait pas de toi un chrétien. Tu es pécheur. Tu as besoin de mon pardon. Tu as besoin du sang de Christ qui a coulé à la croix et qui efface tes péchés. Ce jour-là, j'ai été rempli d'une grande joie. Et je n'ai plus seulement cru que j'avais affaire à un grand Dieu créateur de toutes choses, mais je pouvais croire aux choses, aux bénédictions invisibles qui étaient ma possession, parce qu'il me les avait acquises. Et maintenant, je pouvais dire merci Seigneur, parce que je suis heureux du bonheur que tu m'as acquis à la croix. Merci Seigneur, parce que maintenant, j'ai la paix. De cette paix que tu m'as acquise à la croix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, disait-il. Lorsque Dieu donne, il donne complètement, abondamment, parfaitement. Et il le veut pour que nous soyons, pour que nous parvenions à l'image de ce qu'il est, sachant que bientôt, nous lui serons faits semblables. Merci Seigneur, merci. Quel bonheur que celui-là, n'est-ce pas? Mais voilà, pour jouir de cela, de ce bonheur, ici-bas même, eh bien, il nous faut être dans la paix. Et il nous faut vivre par la puissance du Saint-Esprit. Êtes-vous dans la paix? Est-ce qu'il n'y aurait pas encore dans nos cœurs de ces soucis, de ces problèmes que nous traînons depuis des années, de ces conflits familiaux ou autres? Est-ce que nous n'avons pas tous ces obstacles encore qui nous empêchent de jouir du vrai bonheur en Jésus-Christ? Vous savez, en tant que croyant, ayant accepté par grâce ce salut par la foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus maintenant des soldats. L'apôtre Paul utilise cette image. Nous sommes maintenant des témoins de Jésus-Christ. Nous avons la vie de Christ en nous et nous avons à la manifester. Mais vous savez, si nous sommes remplis de nos tracas, si nos pensées sont continuellement fixées sur toutes ces choses qui nous empêchent de progresser, nous sommes un peu comme ce soldat qui va au combat et qui, en plus de toutes les choses nécessaires qu'il a dans son paquetage, hein, il lui faut ses armes, hein, les armes Éphésiens 6, toutes les armes spirituelles. Mais s'il se charge de plein de choses, imaginez bon qu'il prenne, je ne sais pas moi, des choses terre à terre, qui ne lui sont aucune utilité dans ce combat, mais à la fin, il va se fatiguer. À la fin, il ne va plus pouvoir avancer. À la fin, il va être tellement concentré sur toutes ces choses futiles qu'il ne va même plus penser qu'il est là pour combattre, qu'il est là pour le maître. Alors, nos soucis font le même effet dans nos vies, n'est-ce pas? Et que peut-il arriver? Lorsque nous sommes chargés de tout ce poids, comme le soldat, eh bien nous sommes découragés. Et puis nous laissons tomber les bras. c'est une option. Ou bien alors, nous nous débarrassons de tout. Mais de tout ce qu'il ne fallait pas se débarrasser. Tout ce qui nous était nécessaire pour aller au combat. Toutes ces armes spirituelles. Et nous gardons que les choses futiles, bien souvent. Et puis dans ce cas-là, l'ennemi nous a repérés. Et il nous dit, toi mon ami, je t'ai en vue. Parce que tu ne comptes plus sur ton sauveur. Tu ne vas plus avec la force que Dieu t'a donnée. N'est-ce pas? Et c'est un grand danger pour nous croyants que d'aller de cette manière au combat. Parce qu'il y a ce poids qui nous accable. Alors, encore 5 minutes, ok? Et j'irai vite. D'une manière pratique, quelles sont ces joies spirituelles? Il y en a beaucoup. Je ne vais pas les relever toutes. Qu'est-ce qui nous rend véritablement heureux, nous croyants? En Luc 2, 10, il nous est dit, « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Ça, c'était une grande joie. Lorsque Philippe va dans la ville de Samarie et que des âmes se tournent vers le Seigneur, il y a une grande joie dans la ville. C'est ce qu'il nous a dit, n'est-ce pas? Et puis, il va vers l'eunuque. Il baptise l'eunuque. Et que nous est-il dit de l'eunuque? L'eunuque continue son chemin tout joyeux. Et lorsque le Seigneur m'a touché dans ma vie et qu'après des pleurs de repentance, je l'ai reconnu comme mon sauveur personnel. Et j'espère que c'est le cas de tous ici. Qu'un jour vous ayez fait cette expérience, que vous ayez connu cette relation avec le Seigneur, que vous lui avez confessé vos péchés et qu'il vous a dit, je te pardonne, sois en paix, tu es sauvé pour l'éternité, pas pour la terre uniquement, pour l'éternité. Ce jour-là, j'ai continué ma route tout joyeux comme l'eunuque. Est-ce votre cas? Oh, avec des hauts et des bas. Mais lorsqu'on revient à la personne du Seigneur Jésus, on récupère, on retrouve toujours cette paix et ce bonheur de le connaître et de lui appartenir. Et puis une seconde joie, la joie d'amener des âmes au Seigneur. Ça, c'est la seconde étape. Vous savez, je prie souvent pour mon entourage et en particulier pour ceux qui ne sont pas au Seigneur. Il y en a dans ma famille. Et puis tous les jours, je le remets aux pieds du Seigneur. Parce que je sais que le désir du Seigneur, c'est qu'il soit sauvé, c'est qu'il possède la vie éternelle. Et c'est avec conviction et avec foi que nous devons le faire. Mais le jour où le Seigneur le touchera dans sa grâce, quelle ne sera pas ma joie? Quelle ne sera pas votre joie de voir venir au Seigneur un de vos enfants, de vos petits-enfants, de votre conjoint peut-être? N'est-ce pas là une grande joie? N'est-ce pas là un élément qui participe à notre bonheur? Je vais aller au dernier sujet, parce qu'il y en avait bien d'autres, qui constituent notre joie. Parce que finalement, c'est ce qui nous fait avancer. C'est la joie que nous avons dans l'espérance de la venue du Seigneur Jésus. Si nous avons franchi toutes ces étapes, et si nous croyons à un Christ qui est mort à la croix, qui est ressuscité, qui est remonté au ciel, si nous en restons là, notre joie sera éphémère. Il y a une espérance qui est liée à l'œuvre du Seigneur pour chacun de ceux qui ont cru. Et cette espérance, elle n'est pas uniquement terrestre. Elle est terrestre. Parce que nous avons à côté de nous, nous l'avons chanté, celui qui est notre rocher, notre soutien. Il a énuméré beaucoup de termes, notre frère, dans sa prière. Et tout ça, c'est une réalité pour la terre. Mais il y a l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Quelle n'est pas ma plus grande joie, c'est de savoir que celui en qui j'ai cru ici-bas, je le retrouverai là-haut dans le ciel. Alors que, quelle différence, hein, il y a entre l'Ecclésiaste, ce qu'il a découvert avec son raisonnement, et ce que la parole de Dieu nous révèle aujourd'hui, par Jésus-Christ. Alors nous sommes heureux. Vous savez, on chante parfois ce cantique. Je pense pas que vous le connaissez, mais ce sera ma conclusion. Qui dit ceci. Je la connais, cette joie excellente. Que ton esprit, Jésus, met dans un cœur. Je suis heureux, oui. Mon âme est contente. Puisque je sais qu'en toi, j'ai mon sauveur. Autant je peux être convaincu que vous êtes là devant moi parce que je vous vois de mes yeux, je peux dire, je sais qu'en Jésus-Christ, j'ai mon Sauveur. Et je le dis par la foi. Est-ce votre cas? Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce ce matin, nous te disons le merci de nos cœurs parce que nous avons affaire à un grand Dieu, à un Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. Mais à un Dieu qui veut notre bonheur, qu'il a toujours voulu de tout temps. Mais l'homme s'est égaré, l'homme a péché, et par son péché, il s'est éloigné de toi. Et il y a eu cette séparation entre toi et lui, que l'on nomme le péché. Mais dans ton amour, dans ta grande bonté, tu as posé un regard de compassion et d'amour vers cette création que tu aimais infiniment, au point de devenir toi-même en la personne de Jésus-Christ, ton Fils, ton bien-aimé, pour que nous puissions vraiment bénéficier pleinement de ce bonheur que nous avons en lui. Seigneur, lorsque tu donnes entièrement, sans compter, parce que tu es un grand Dieu qui dépasse tout entendement. Tu donnes toujours le meilleur. Et pour nous qui avons cru, pour nous qui sommes au bénéfice de ta grâce, pour nous qui possédons cette joie, nous pouvons dire aussi que pour nous le meilleur est à venir. Aussi, Seigneur, sois loué, sois adoré, parce que tu en es digne. Tout ce que tu as fait par nous, pour nous, pardon, par Jésus-Christ, et pour tout ce que tu es dans notre vie de chaque instant, et pour tout ce que tu seras jusque dans l'éternité. Amen.